La forte opacité des 29 CHU, CHR métropolitains sur leurs dépenses pharmaceutiques hors de contrôle et évoluant au principal détriment des charges de personnel non médical, infirmières, aides-soignantes, jette un doute sur la pertinence et l'efficience des prescriptions hospitalières de produits de santé. On va voir qu'on n'est pas sans relation avec l'actualité récente, en particulier la semaine dernière avec le deuxième plan hôpital 2022. Alors, je rappelle que je n'ai aucun lien d'intérêt à déclarer depuis plus de 17 ans avec les firmes pharmaceutiques et celles plus généralement qui commercialisent des produits de santé. Je suis membre de l'organisation Princeps du colloque et de l'association Pharmadep. Suite à une conférence donnée à Sciences Po, le 20 décembre 2018, par Martin Hirsch, de l'assistance publique Hôpitaux de Paris en 2028, c'était sa vision de la PHP en 2028, au cours de laquelle ni la pertinence ni l'efficience de la prescription des produits de santé n'avaient été abordées, et les questions sur ce thème éludées, alors qu'en filigrane, un énième plan social visant des personnels soignants de l'AP était évoqué, m'est apparue l'idée de réactualiser un benchmarking sur l'efficience pharmaceutique des 29 centres hospitaliers universitaires et centres hospitaliers régionaux métropolitains réalisés en 2011 et en 2012. Cela dans un contexte de forte tension sur les prix des nouveaux médicaments, en particulier ceux prescrits par les spécialistes hospitaliers, on revient là-dessus, exerçant dans les CHU et CHR, de tension sur les tarifs d'hospitalisation et de creusement de leurs déficits, il a semblé intéressant de faire le point sur l'évolution de leurs principales dépenses budgétaires. Mes objectifs étaient d'estimer l'évolution de la part dans le budget principal des 29 CHU-CHR des dépenses pharmaceutiques. Alors, c'est ce qu'on appelle les charges à caractère médical, c'est le titre 2 individualisé dans la comptabilité hospitalière, et cela correspond le plus souvent à plus de 80% aux dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux. Et je voulais voir aussi l'évolution des dépenses totales de personnel, et puis, ce qu'on appelle le titre 1, et puis, dans le détail, des dépenses de personnel médical, médecins, pharmaciens essentiellement, et des dépenses de personnel non médical, infirmières, aides-soignantes, les soignants, on va dire, et les agents administratifs. En deuxième lieu, je voulais comprendre cette évolution en la mettant en perspective avec d'autres indicateurs de capacité, alors d'activité, de ressources humaines, c'est-à-dire les nombres de lits, les nombres de journées d'hospitalisation, les effectifs, les équivalents temps plein, des personnels médicaux et non médicaux. Les recherches ont été effectuées en décembre et en février sur les sites web des CHU-CHR et sur le site de la conférence des directeurs généraux de CHU-CHR. J'ajoute que le site de la conférence des DG de CHU-CHR a une page avec la conférence des doyens de faculté de médecine. Ce sont classiquement ce qu'on appelle les chiffres clés publiés par ces CHU, à défaut les comptes financiers qui sont plus épais, les rapports d'activité qui sont plutôt plus succincts. Et c'est du lourd parce que c'est sur les 12 années entre 2006 et 2017. C'est du lourd. Et donc, en cas de données manquantes, ces données ont été systématiquement demandées par courriel en décembre et février aux responsables et directeurs de la communication des CHU-CHR. En cas de refus ou à défaut de réponse après un délai d'un mois, la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, a été saisie de janvier à mars. Parallèlement, les autres indicateurs ont été recherchés sur la même période, 2006-2017, dans la base de données publique SAE-DRES, qui recueille des réponses à l'enquête obligatoire statistique annuelle des établissements de santé. Et je les ai importés dans une base de données relationnelle ad hoc, Microsoft Access. L'importation de 55 tables et la construction de 28 requêtes ont été nécessaires pour restituer ces 6 indicateurs. Résultat, les estimations d'évolution des dépenses présentées dans ce travail ont été calculées à partir des données déjà en ma possession, qui dataient de benchmarking 2011 et 2012. Vous avez notamment les années 2006 à 2011-2012. Et celles collectées donc sur les sites, aucune demande de données manquantes faite au CHU-CHR n'a été satisfaite. Y a-t-il eu un mot d'ordre? On peut se le demander, moi j'en suis certain. Parce que 29 CHU-CHR, on leur demande séparément, je ne vois pas pourquoi il n'y en aurait pas un qui enverrait ces données. La CADA, comment?
C'est probablement un tel bordel qu'ils
Non. La CADA a donc fait l'objet d'une ou de plusieurs saisines pour 26 des 21 CHU-CHR. Néanmoins, elle a des délais d'instruction des dossiers de plus de 6 mois. Et c'était au-delà de la date du colloque en mai. Et peut-être qu'on fera une réactualisation avec les données que m'ont envoyées les CHU quand ils ont reçu un coup de pied dans les fesses de la part de la CADA. Pas tous, hein. Il y en a qui n'ont toujours rien envoyé, les plus gros en particulier. Seul le CHU de Poitiers publie sur son site la totalité des données nécessaires, et cela même depuis 2001. Et les données complètes pour toutes les années n'ont été disponibles que pour seulement deux autres CHU, en ayant les deux ensemble. L'année 2010 est la seule sur la période avec une réponse au moins partielle de la totalité des 29 CHU-CHR. Et donc vous avez dans ce tableau l'opacité dont je parle, en rouge, et en fonction des années des CHU, c'est absence de données que je demandais. En orange, c'est lorsque les données sont incomplètes. Par incomplète, j'entends je n'ai pas le détail entre les charges de personnel médical et non médical. En vert, ce sont les données complètes. Vous voyez qu'il n'y en a quand même pas énormément. Alors voilà les résultats. La part dans le budget principal des 29 CHU, des dépenses pharmaceutiques, le titre 2, est passée de 19% en 2006 à 25,2% en 2017. C'est-à-dire une augmentation du poids des dépenses pharmaceutiques dans le budget principal des CHU-CHR de près d'un tiers. C'est colossal, hein. Ça se chiffre en milliards.
Ça permet de dire que c'est hors de contrôle ?
Oui, on en reparle en discussion, mais c'est quand même très très important cette augmentation. Et les dépenses de personnel évoluent dans le même temps, hein, alors qu'à une époque, on avait pratiquement deux tiers des dépenses de l'hôpital, enfin des CHU, avec le personnel. On est passé de 64,5 à 57,4. On a perdu 11% de part dans le budget principal des dépenses de personnel. Mais cette évolution a été extrêmement contrastée. Nous avons une hausse des dépenses de personnel médical de près de 10%, 9,7%, 13,4, 14,7. Et nous avons une baisse importante, 14,3% des frais de personnel non médical. Alors, si on regarde les autres indicateurs, on a une baisse de 5% des lits d'hospitalisation sur ces 29 CHU-CHR, de 7,3% des journées d'hospitalisation. J'ajoute que j'ai interrogé les activités médecine, chirurgie, obstétrique, psychiatrie, soins de suite et réadaptation, hospitalisation complète et hospitalisation partielle, unité de soins de longue durée. Et donc, quand on regarde maintenant les effectifs, là aussi c'est très contrasté, on a une augmentation de 7% des effectifs médicaux, mais on a une augmentation de près de 20% des équivalents de temps plein. C'est-à-dire que non seulement on a augmenté les effectifs, mais on a augmenté le temps de travail de ces personnels médicaux. 20%. Et quand on regarde l'évolution des effectifs de personnel non médical, ils n'ont augmenté que de 5% et en équivalent de temps plein de 5,5%. Quand vous augmentez le nombre de médecins, les aides-soignantes et les infirmières, mais il y a aussi les agents administratifs. Il y a aussi les agents administratifs. Hein. Mais, bon, le plus gros des troubles, c'est quand même, on le sait, hein, c'est surtout les infirmières, les aides-soignantes. Hein. Surtout les aides-soignantes. Dans un hôpital, un CHU, c'est... Voilà. Alors, simplement, ce que je pense, hein, je gênais comme hypothèse, mais bon, je pense que quand on augmente le nombre de personnels médicaux, les médecins, pour les prescriptions, hein, et qu'on augmente les équivalents temps plein, on augmente les nombres de prescriptions à exécuter par le personnel soignant, forcément. Et c'est plus concentré, surtout si on a diminué le nombre de lits. Hein. Donc, si vous voulez, pour être... premièrement, les CHU, CHR de métropole sont très peu transparents sur les informations financières. Serait-ce demandé la lune que tous les hôpitaux se calent sur la pratique d'excellence du CHU de Poitiers, qui a mis en ligne en accès, je le répète, depuis 2001, Les industries des produits de santé sont les plus grandes bénéficiaires d'une restructuration, pardon, pas forcément choisie, des dépenses budgétaires des 29 CHUCHR métropolitains. Les hôpitaux universitaires et régionaux dépenseront bientôt deux fois plus pour les médicaments et les dispositifs médicaux que pour le personnel médical qui les prescrit et les délivre. Alors je dois ajouter quand même quelque chose, une précision utile, c'est que pour les médicaments les plus onéreux, ils sont parfaitement gratuits pour l'hôpital. L'hôpital ne les paye pas, ils sont remboursés à l'audition longue, hein, les médicaments de la licence US. Alors évidemment, ici on n'a pas les médicaments rétrocédés, on n'a pas non plus les médicaments prescrits en consultation et délivrés en ville, hein, par les spécialistes. On a l'intra-hospitalier, non rétrocédé. Hein. Mais là-dedans, on a au moins la moitié qui est sur la liste en sus, et ça, c'est gratuit pour l'hôpital, ça ne les responsabilise pas. Tout se passe sur un plan, on va dire comptable, comme si on avait, sur cette période 2006-2017, sacrifié des ressources en personnel non médical pour financer une légère augmentation des charges de personnel médical et une hausse marquée et continue des dépenses pharmaceutiques qui tranchent avec la maigreur des progrès thérapeutiques. Limitation d'études, les titres 3 et 4, donc les charges à caractère hôtelier, les charges financières n'ont pas été prises en compte, bien qu'elles ne représentent que 25% du budget principal. Il pourrait y avoir eu des variations également sur la période. La part du titre 2 dans le budget principal pourrait constituer un indicateur pour comparer l'efficience de la prescription des produits de santé de l'hôpital et de taille d'activité comparable. Bon, bah, j'en étais convaincu puisque j'avais fait ce benchmark en 2011. Et finalement, les rapports financiers des CHU-CHR, mais au fond ceux de n'importe quel hôpital, parce que je pense que j'aurais fait l'étude sur les grands CH, j'aurais trouvé la même chose, ne devraient-ils pas être à la disposition des usagers? La part des dépenses pharmaceutiques dans le budget principal des CHU-CHR est-elle vouée à croître indéfiniment? Et celle des personnels non médicaux, dont infirmières et aides-soignantes, à s'enfoncer inexorablement. Voilà, je vous remercie.